Vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie, le libre journal des débats, dirigé ce soir par Charles de Meyer. Et par chance, pour une fois, j'enregistre un mercredi soir. Et vous ne savez pas, messieurs et mesdames les auditeurs de Radio Courtoisie, j'ai encore la chance de retrouver Claudia, qui nous accompagne encore une fois dans l'enregistrement de cette émission. Et là, nous allons parler de philosophie. Donc, nous comptons sur la légèreté et le rire de Claudia pour nous accompagner dans toute cette émission, mais également sur la précision et la pédagogie d'Antoine Dress. Antoine, bonsoir.
Bonsoir Charles,
vous
merci pour l'invitation.
Le réalisme politique, principes et présupposés aux éditions de la Nouvelle Librairie, excellentes éditions. Vous animez la chaîne de philosophie politique Egonon sur YouTube. Il y a quelques auditeurs qui ont le défaut de ne pas connaître la chaîne. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots?
Alors très rapidement, c'est une chaîne de philosophie politique effectivement que j'ai lancée il y a maintenant presque 3 ans sur YouTube. Donc dans laquelle je présente des auteurs ou des pensées de penseurs qui me semblent tout à fait fondamentaux. On y trouve principalement de la politique, mais je parle de temps en temps également d'historiens, par exemple comme Henri Pirenne ou de grands écrivains. Mais mon but est vraiment de présenter des concepts importants et qui peuvent encore être pérennes aujourd'hui.
Ces concepts pérennes, vous les étudiez également dans la revue Éléments. Vous avez publié avec Clotilde Vénère « À la rencontre d'un cœur rebelle, entretien sur Dominique Vénère ». On a eu l'occasion de rencontrer Clotilde Vénère. Si vous êtes intéressé par son propos, vous pouvez évidemment chercher tout ça sur le site de Radio Courtoisie. Vous travaillez tout spécifiquement, Antoine, à la Nouvelle Librairie. Est-ce que vous pouvez nous dire, sans révéler de grands secrets évidemment, ce que vous y faites?
Alors, plus spécifiquement, c'est plutôt avec l'Institut Iliade que je travaille. Je suis responsable du pôle édition de l'Institut. Donc, je m'occupe en fait des publications de l'Institut Iliade en collaboration avec la Nouvelle Librairie. Donc, il y a 4 collections, Longue Mémoire, Cartouche, Agora et Iliade. Et c'est moi qui m'occupe de la publication, de la direction de tous ces livres.
Alors, les personnes qui font les présentations de la 4e de couverture à la Nouvelle Librairie ne sont que des amis, donc elles ne sont forcément que bien inspirées. Antoine, elle nous précise que vous avez fait des études de philosophie à Bruxelles. Quelle place la philosophie occupe aujourd'hui dans votre quotidien? En quoi est-ce que on peut dire, vous me dites si je trahis le propos, mais que vous êtes un philosophe militant, un militant philosophe, vous nous préciserez la chose. En quoi est-ce que ça vous occupe? En quoi est-ce qu'aujourd'hui, dans une vie de militant classique, au lieu de simplement coller des affiches et intervenir sur les réseaux sociaux, vous faites de cette recherche, cette inspection des choses du monde, une occasion également de militer pour des causes plus pratiques, plus réelles, finalement plus réalistes, ce dont nous allons discuter dans quelques instants.
Eh bien, la philosophie occupe une place incontournable dans ma vie, en fait, puisqu'elle est devenue mon activité principale, mon métier en vérité, ma vocation. Et en cela, je m'estime extrêmement chanceux. Je me souviens, quand je faisais mes études de philosophie à l'université, c'était une des grandes questions que je me posais, que la plupart des autres condisciples en philosophie nous posions. C'était, bon, on fait ses études par passion, mais qu'allons-nous faire après? Est-ce que la philosophie fera encore partie de notre vie après les études? Et dans mon cas, c'est ce que j'ai réussi à faire. J'ai réussi à concilier des convictions politiques qui sont très fortes avec cette activité principale. Donc j'essaye de mettre au service de certains combats auxquels je crois ce que j'ai appris de mes études. Et donc quand j'ai découvert la philosophie, j'étais adolescent, j'avais découvert par mon oncle qui était philosophe, et j'avais découvert cette phrase de Socrate, Socrate à son procès, qui avait dit « Une vie sans examen de soi-même ne vaut pas la peine d'être vécue ». Ben j'espère pouvoir continuer cet examen toute ma vie.
Comme quoi on peut venir de Liège et s'examiner. Félicitations Antoine Dress, je rappelle que vous publiez Le réalisme politique, principes et présupposés aux éditions de la Nouvelle Librairie. Alors, on va revenir sur votre introduction, mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous faire un peu la jeunesse de cet ouvrage? Alors, vous le dédicacez à des gens de grande qualité, donc j'imagine qu'ils y jouent un rôle, mais au-delà de ces personnes, finalement, comment avez-vous abordé cette question? Pourquoi est-ce que vous avez considéré qu'il y avait nécessité à en faire un livre? Finalement, Antoine Dress, qui se met sur sa table de travail et qui essaye de d'écrire sur ce sujet, d'où cela vient-il?
Alors, il y a plusieurs raisons, en vérité. Une raison, on peut dire un peu anecdotique, mais je la mentionne quand même, C'est qu'en vérité, le premier livre de philosophie qui m'est tombé entre les mains vers mes 15-16 ans, c'était Le Prince de Machiavel, que j'ai trouvé dans la bibliothèque de mon grand-père. Et comme vous l'avez lu dans le livre, Machiavel occupe une place très importante dans cet écrit. Donc, Machiavel a été une de mes premières découvertes intellectuelles et j'y suis très souvent revenu. Avant de me mettre à. Avant de décider d'écrire ce livre, j'avais dû lire Le Prince 5 ou 6 fois. Ensuite, la problématique en tant que telle, donc, qui va faire l'objet de toute cette émission, du réalisme politique, m'obsède depuis un long moment, car une des choses qui m'avait intéressé chez Machiavel dès le début, c'était précisément cette capacité qu'il avait de dissocier politique et morale. Et j'ai très souvent été, je suis encore irrité par les discours contemporains qui tendent à moraliser le politique en permanence, c'est-à-dire à couvrir la politique d'un discours moral, moralisateur. Et donc, en Machiavel, j'avais toujours trouvé une grande hygiène intellectuelle qui m'a semblé un peu importante de développer dans un livre. Et si j'ai dédicacé ce livre à certains de nos amis communs,
Alors on
c'est
peut le
parce qu'ils ont
dire,
joué un.
c'est à Bastien
Bastien
et si
Frima et
Frima et
Sixtine.
Sixinje.
Exactement. Eh bien, si je leur ai dédicacé ce livre, en plus de l'amitié et de l'estime que je leur porte, c'est surtout parce que c'est grâce à eux que j'ai découvert l'Institut Iliade. C'est eux qui m'ont introduit dans cet univers. Et donc, c'est une façon pour moi de les remercier.
Et puis c'est évidemment une façon pour ceux qui les connaissent et qui les aiment de leur rendre hommage. Alors, entrons dans la problématique, puisque c'est l'hommage qu'il préférerait, je pense qu'on en est d'accord. Antoine, finalement, vous écrivez, quelle place pour les idées dans l'action sur la réalité, autrement dit, sur le politique? Finalement, vous êtes un bon philosophe, donc vous problématisez votre propos, Antoine. Finalement, quand vous voyez ce sujet du réalisme politique arriver, comment essayez-vous de discerner la question? Finalement, quelles questions vous posez-vous réellement au moment d'ouvrir, d'écrire les débuts de ce livre?
En vérité, la question qui m'a importé dès le début, c'était de bien délimiter la chose, car le réalisme, c'est un mot dont on se réclame à peu près tous. C'est-à-dire que personne à peu près ne dit se trouver en dehors de la réalité. Tout le monde se réclame de la réalité, et donc tout le monde veut faire preuve de réalisme. Mais au-delà de cet usage trivial, j'ai voulu cerner la question de manière plus précise, voir ce que cela pouvait recouvrir. Et donc, le réalisme politique tel que je l'entends à la suite de personnes comme Machiavel, Carl Schmitt ou Julian Freund, c'était plutôt non pas une forme de conception très terre-à-terre de la politique, comme on peut l'entendre très souvent, c'est-à-dire, ah, vous êtes un idéaliste, moi je suis réaliste, c'est-à-dire je regarde la politique telle qu'elle est réellement. C'était plutôt de voir que la politique, en vérité, constituait, si je puis dire, une réalité à part entière. Une réalité à part entière qui possède ses lois propres, qui a une certaine autonomie. Et c'est en ce sens qu'on parle de réalisme politique. Le réalisme politique est une disposition d'esprit, est un habitus qui cherche à éclairer les règles que suit la politique. Et c'est en ce sens que mon livre débute par une petite problématique sur la question des idées. C'est-à-dire que après, tout le monde a des idées politiques, tout le monde a des idées de ce qu'il faudrait ou
Mais
faut.
c'est le malheur de tous ceux qui font de la politique. C'est-à-dire que le drame, c'est que tout le monde a des idées là-dessus.
Tout le monde a des idées là-dessus et nous vivons en démocratie, à peu près tout le monde, même en dehors du personnel politique, a des idées sur la politique. Mais avoir des idées ne suffit pas à faire de vous un homme politique. Il y a quelque chose en plus, en vérité. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas important d'avoir des idées également pour faire de la politique, mais que l'un ne suffit pas.
Si bien que vous essayez de distinguer trois acceptions qu'on pourrait donner au terme idée dans cette question. La première, c'est l'acception de la tension morale. Vous me dites évidemment si je résume à trop gros traits, vous avez tout droit de préciser, Antoine Dresse. La deuxième, c'est la capacité à comprendre la tendance d'une époque. Une idée, finalement, ce serait une dynamique qui nous entraînerait tous. Et la troisième acception, ce serait celle d'un concept. Si bien que vous écrivez, pour différentes qu'elles soient, ces acceptions du mot idée ont en commun de posséder une valeur prescriptive. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ces trois définitions, si tant est que je les ai correctement comprises, donnent cette valeur prescriptive, Antoine Dresse?
Parce que l'idée en tant que telle indique une forme de devoir-être. C'est-à-dire que vous avez cité ces trois exceptions que j'ai mentionnées. Donc, la morale implique clairement un devoir-être. Hein. La morale, c'est ce qu'il faut faire pour mener une vie bonne ou pour respecter la justice, par exemple. Les idéaux d'une époque, c'est l'apparence de ce qu'il faudrait être. Par exemple, les idéaux de l'époque depuis la Révolution française, c'est les idéaux démocratiques. Eh bien, la démocratie doit se réaliser en tant que telle. Et l'idée comme concept, comme théorie, mais exige une réalisation dans le domaine pratique. Sinon, à quoi bon développer des théories? Même si le lien entre théorie et pratique n'est pas toujours évident, c'est quand même l'application dans le monde pratique qui est la finalité de la théorie. Et si je mentionne ces trois exceptions du terme de l'idée, c'est que c'est une tentation que connaît l'humanité depuis à peu près toujours, et en philosophie en particulier quand il est question de politique, c'est qu'on a toujours tendance à vouloir subordonner l'être au devoir-être. C'est-à-dire qu'il y a, pour parler très simplement, la manière dont les choses fonctionnent et avec notre raison, avec notre imagination, avec notre capacité d'intellection, nous voulons plaquer des choses sur l'être. Et la politique en fait très souvent les frais.
Si bien que vous écrivez, ne respectant que ses propres lois, la politique est rétive à se laisser enfermer dans les filets de l'idée. Ce qui peut paraître étonnant de premier abord. Beaucoup de nos auditeurs qui se sentent appelés, intéressés par la politique, le sont parce qu'ils considèrent qu'ils épousent une vision du monde, parce qu'ils considèrent que des faits, des événements circonviennent, divergent de ce qu'ils considèrent être comme le bien. Alors, comment pouvez-vous dire que la loi de la politique serait rétive à finalement une intervention extérieure, idéelle ou idéale?
Tout simplement parce que vous pouvez avoir les meilleures idées du monde ou être l'homme le plus vertueux du monde, ça ne fait pas de vous un bon homme d'État pour autant. On
Ouais, je
peut
le constate tous
totalement.
les jours, Antoine, je le constate tous les
Oui,
jours.
je parle à un connaisseur. Ce sera d'ailleurs l'objet, on en parlera plus en détail quand il sera question de Machiavel, mais on peut avoir des hommes extrêmement, même extrêmement vertueux sans aller dans l'idée, enfin dans le domaine des idées en particulier, des gens qui savent extrêmement bien se comporter, mais qui sont complètement démunis quand ils font face à une épreuve politique. Parce que la politique suit des règles tout à fait différentes et des règles qui lui sont propres. Et précisément, c'est de la constatation qu'il existe un hiatus entre l'idée et la politique que naît le réalisme politique, en fait, en vérité. Et si vous me le permettez, je voudrais définir ce point avec à l'aide des considérations de Julien Freund. Julien Freund, qui est un grand nom du réalisme politique,
Alors, si vous
auquel je
pouvez
n'ai pas.
juste le situer pour les auditeurs qui ne le connaîtraient pas, et puis ensuite développer, Antoine.
Alors, Julien Freund, tout à fait, c'est un philosophe, un sociologue français, lorrain, même pour être précis, je pense qu'il était lorrain du XXe siècle. On présente généralement comme un disciple de Carl Schmitt, ce qui est assez vrai dans une large mesure, même si sa pensée ne se réduit pas à celle de Schmitt. Ils se reconnaissaient deux maîtres, Carl Schmitt et Raymond Aron. Et Julien Freund est l'auteur d'une monumentale œuvre intitulée L'essence du politique. C'est un livre vraiment, il fait plus de 800 pages, des grandes pages, et qui est un livre extraordinaire, car à mon sens, il constitue vraiment la synthèse de toute la tradition politique occidentale depuis plusieurs siècles, donc c'est une œuvre incontournable quand on s'intéresse à tous ces sujets. Et le titre est très évocateur, l'essence du politique. Qu'est-ce que ça veut dire, l'essence du politique? Eh bien, dans la démarche freudienne, qui est un peu celle dans laquelle je m'inscris aussi, avec modestie, bien entendu, cerner l'essence du politique, c'est tenter de comprendre le politique au-delà de ses manifestations contingentes ou historiques. Car toute essence apparaît aux hommes d'une époque donnée comme étant liée à une forme particulière, mais cette forme ne suffit pas à l'embrasser dans toute sa réalité. Je vais donner un exemple très très concret, parce qu'on pourrait parler. Julien Freund parle de l'essence de l'économie, de l'essence du religieux, de l'essence de la morale, par exemple. Et lui, ce qui intéresse, c'est l'essence du politique. L'essence du phénomène religieux ne se limite pas aux 5 prières par jour dans l'islam ou à la fréquentation de la messe du dimanche dans la religion catholique. On peut tout à fait imaginer une activité religieuse sans cette pratique rituelle du culte, par exemple. Donc, le but de chercher quand Julien Freund cherche l'essence du politique, c'est chercher ce qu'il y a vraiment de sous-jacent, ce qui détermine toutes les autres manifestations historiquement déterminées. Si on reprend l'exemple du religieux, peut-on concevoir l'activité religieuse sans les notions de finitude ou de transcendance, par exemple? Peut-on concevoir l'éthique sans les notions de bien ou de mal? Peut-on concevoir l'activité scientifique sans les notions de vrai ou de faux? Eh bien, la grande question de Julien Freund, c'est quels sont les présupposés qui sont nécessaires à la compréhension du phénomène politique? Et le réalisme politique s'attachera justement à faire ressortir les présupposés invariants qui conditionnent toute activité politique. Mais alors, je reviens sur ce qu'on disait précédemment, c'est-à-dire sur ce devoir-être qu'on essaye toujours de plaquer sur l'être. L'autonomie de la science, l'autonomie de l'art, de la religion, par exemple, ne soulève généralement pas de résistance, mais parler d'autonomie du politique, en revanche, ça interroge ou ça horrifie généralement. Et ça a très longtemps horrifié la tradition philosophique ou même la tradition religieuse, car on a très souvent eu tendance à plaquer sur la politique les lois de la morale.
Bah oui, c'est ça que
Et
j'allais vous dire, Antoine Dresse. Finalement, évidemment, c'est horrible, puisque la politique, c'est la recherche de la vie bonne. La recherche de la vie bonne, c'est une vie morale, si bien que la politique, c'est une sorte d'excuse à des divergences vis-à-vis d'une vie morale bien comprise. Est-ce que c'est comme ça qu'on pourrait résoudre la chose?
Alors, personnellement, c'est pas ainsi que je résoudrais la question. En tout cas, c'est comme ça qu'on a souvent été tenté de la résoudre. Effectivement, la tradition philosophique, on peut remonter à l'Antiquité, à Platon, Aristote, par exemple, on avait cette idée que la politique était à la vie collective ce que la morale était à la vie individuelle. Comme vous l'avez dit, la morale vise à amener les hommes individuellement vers la vertu, et la politique aurait cette même finalité, mais à l'échelle de la collectivité tout entière. Le réalisme politique considère que la politique, au contraire, consiste en une réalité distincte. Mais attention, j'insiste bien sur le terme distinct et non pas séparé. Les cinq doigts de la main sont distincts et ne sont pas séparés. C'est-à-dire qu'on peut Ils ont chacun une activité propre, mais ils font quand même partie d'un tout. C'est-à-dire que l'éthique, la religion, l'économie, la science ont leur propre autonomie avec leurs propres présupposés. Ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas des rapports dialectiques entre eux. Par exemple, un roman, un excellent roman, peut évidemment comporter une importante dimension morale. Mais il ne doit pas être que cela. C'est-à-dire un roman qui serait écrit uniquement pour édifier moralement ses lecteurs, généralement fait un très mauvais roman. Bien, il faut toujours donner des exemples aux théories abstraites. Il faut donner de la chair. Et donc, il en va de même pour la politique et la morale. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a des rapports dialectiques entre l'un et l'autre. On aura l'occasion d'y revenir dans cette émission, je crois. Mais la finalité de l'un n'est pas strictement la finalité de l'autre. C'est-à-dire que c'est ce que montrera Machiavel, par exemple. La finalité de la morale, c'est le bien, alors que la finalité du politique, une des finalités, c'est la sûreté commune, c'est la protection.
Si bien que l'un des intérêts de cette démonstration, qu'on va creuser hein, petit à petit au cours de l'émission en temps de Dresse, c'est de montrer que la question politique finalement n'est pas artificielle. Pour vous, la question politique n'est pas une construction supplétive, un homme qui s'ennuie, qui a découvert des choses superfétatoires à son quotidien. Non, pour vous, finalement, dès lors qu'il y a société humaine et. Si on pose une forme de nature humaine ou de constance humaine, quel que soit le terme que vous voudriez employer, fatalement, la question politique, se pose immédiatement à cette constitution.
Tout à fait. Pour reprendre à nouveau les termes de Julien Freund parlait d'activité originaire de l'existence humaine. Et la politique était une de ces cinq ou six activités originaires de l'existence humaine pour une raison très simple. C'est-à-dire que dès que les hommes vivent en collectivité, et si on est aristotélicien, on pourrait dire que les hommes vivent par nature en société. Bien, dès qu'il y a société, il y a nécessité d'organiser cette société. Et quand on organise quelque chose, qu'on organise une masse, cette organisation se fait nécessairement d'un point de vue politique, d'un point de vue hiérarchique avec qui implique un rapport de commandement et d'obéissance. Et ça fait d'ailleurs l'objet d'un des chapitres du livre.
On va évidemment y revenir. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Antoine Dresse qui publie Le réalisme politique, principes et présupposés aux éditions de la Nouvelle Librairie. Vous êtes bien à l'écoute du libre journal des débats de Radio Courtoisie. Alors, premier chapitre, on pourrait penser que vous en venez à Aristote ou à François Hollande pour réfléchir à la politique. Et pourtant, vous faites le choix de Machiavel ou l'art de l'action. Alors d'abord, première question assez simple, pourquoi choisir Machiavel pour commencer votre démonstration?
Qui d'autre, quand on parle de réalisme politique, le nom de Machiavel, d'abord a mauvaise presse, hein, il a donné naissance à cet adjectif qui est machiavélique ou machiavélien, et qui est généralement employé comme un synonyme de cynique ou d'être immoral, ce qui est quelque chose d'assez injuste. Mais il me fallait parler de Machiavel parce qu'il est, à mon sens, le premier à avoir vraiment opéré cette distinction de manière aussi claire entre politique et morale. Évidemment, on peut lui trouver des précurseurs, on a pu dire qu'on avait déjà cette idée chez Thucydide, par exemple, ce grand historien de l'Antiquité, mais c'est Machiavel qui a été le plus loin dans cette distinction, qui a été le premier en tout cas, et c'est ça qui constitue toute l'originalité de son œuvre. Car Machiavel, bizarrement, a choqué dès l'écriture, dès l'apparition de son prince. Le nom de Machiavel a été chargé de toutes ces significations extrêmement négatives. Et pourtant, quand on regarde aujourd'hui ce qu'il a écrit très concrètement, on a écrit des choses plus choquantes depuis. Et en fait, l'originalité de Machiavel tient précisément, c'est une des choses que j'ai voulu préciser dans le livre, dans sa sincérité à l'égard de la chose politique.
Vous écrivez exactement, Antoine Dresse, si Machiavel innove en vérité et si son œuvre a tant marqué ses lecteurs, c'est moins par son immoralité que par sa parfaite honnêteté. Que voulez-vous dire par là?
Eh bien, très simplement, que si Machiavel avait été machiavélique, il n'aurait pas dit au prince qu'il était plus avantageux parfois de paraître être pieux plutôt que de l'être réellement. Il aurait fait, comme tous ses prédécesseurs, un livre vantant les mérites du prince, sa moralité, etc., pour être bien vu du prince. L'ambition de Machiavel, c'était vraiment d'éclairer les règles du politique et de les éclairer de manière extrêmement froide et sans aucun a priori moral. Et c'est d'ailleurs, il y a tout un paradoxe dans l'écriture même du prince, le prince de Machiavel, car Machiavel s'inscrit en vérité dans une tradition qui le précède, qui est la tradition qu'on appelle le miroir des princes. C'est un des premiers à avoir écrit un miroir de prince. C'était un philosophe du Moyen Âge, de l'époque carolingienne, qui porte un nom tout à fait farfelu, qui s'appelle Smaragde de Saint-Miel. Et c'était une tradition qui consistait à écrire en fait d'un livre de vertu visant à l'édification morale du prince. Le prince doit respecter les préceptes de la moralité chrétienne, le prince doit chercher le bien commun, etc., etc. Et donc le livre de Machiavel s'inscrit dans cette tradition, mais en étant précisément le contraire, car il ne va pas s'agir uniquement de donner des préceptes moraux au prince, au contraire, il va essayer plutôt de montrer au prince comment fonctionne son art, l'art qu'il est censé maîtriser.
Si bien que vous écrivez, l'idée directrice de son œuvre, c'est la description de l'histoire naturelle des hommes. Finalement, ce qui distingue Machiavel, c'est qu'il discute davantage à partir de titres livres que d'Aristote et Platon dans le début de son œuvre.
Tout à fait. C'est-à-dire que Machiavel est évidemment fait partie de cette époque de la Renaissance italienne où on redécouvre les anciens. Il connaissait très bien Platon ou Aristote, mais effectivement, ce qui l'intéressait bien davantage, c'était les historiens. C'était Thucydide et en particulier Tite-Live.
Sur
Parce
lequel
que
il
c'est.
écrit un discours en
Oui,
particulier qu'on peut citer, parce que
discours.
là on va parler davantage du prince, mais il y a évidemment un deuxième grand texte bien connu de Machiavel.
Le discours sur la première décade de Tite-Live, qui est en effet un livre d'ailleurs plus volumineux, dont le propos est moins clair que Le Prince, mais qui est extrêmement intéressant également et qui à mon sens, il n'y a pas de contradiction entre le discours et le prince, comme certains ont pu le dire, notamment comme Rousseau. Mais ce qui est intéressant, justement, je voudrais peut-être faire une petite parenthèse sur cette sincérité de Machiavel et surtout sur l'aspect extrêmement novateur de Machiavel. Car dès la mort de Machiavel, sa réputation a été extrêmement négative. Ses livres ont été mis à l'index dès sa mort. En France, on a eu tout de suite des écrits contre Machiavel, notamment un certain Innocent Gentillet, si je me souviens bien, qui avait écrit un livre contre Machiavel qui était censé propager le vice dans la population. Si on se rapporte au théâtre élisabétain, en Angleterre, Machiavel est souvent cité comme l'équivalent du diable ou du démon. Par exemple, le prologue du Juif de Malte de Christopher Marlowe commence par un monologue de, même pas de Machiavel, mais de Machiavel, de Make Evil, donc c'est-à-dire celui qui fait le mal. Ou alors Shakespeare fait dire à Richard III qu'il aurait des leçons à donner au sanguinaire Machiavel. Enfin, vraiment, Machiavel, dans un premier temps, est vu comme l'être immonde et immoral par excellence qui dit au prince comment tyranniser sa population. Ensuite, on a eu une petite tentative de réhabilitation par d'autres philosophes, comme Spinoza était un des premiers, qui essayait de retourner l'argument pour dire que, mais en fait, non, Machiavel a écrit Le Prince pour aider le peuple. En fait, il écrivait ce prince pour dire au peuple, voici comment le tyran va se comporter si vous acceptez ses lois. Et ça ira jusqu'à Rousseau qui dira que Le Prince était le plus grand livre républicain qui soit. Et un des premiers, en fait, à avoir porté un regard objectif sur cette œuvre, c'est Herder. Herder qui a eu le mérite de lire l'œuvre jusqu'au bout, je crois. C'est-à-dire que le prince se termine par un chapitre qui est une exhortation à libérer l'Italie des barbares. Et en fait, c'est ce chapitre qui éclaire toute la démarche de Machiavel. C'est-à-dire que l'Italie de l'époque de Machiavel est dans un piteux état politiquement. C'est une Italie complètement morcelée qui est attaqué de toutes parts, des puissances étrangères viennent dans le pays pour s'y tailler un morceau. Et Machiavel veut que l'Italie se libère de ses influences étrangères et veut œuvrer, peut-être avec cet aspect visionnaire, à une unification de l'Italie 3-4 siècles avant l'unification réelle. Et c'est justement en vue de cet objectif que Machiavel se dit, nous n'avons plus le temps, nous n'avons plus le temps d'en rester à des exhortations morales, comme le faisaient les anciens philosophes. Il faut voir maintenant comment ça marche concrètement pour avoir une action effective sur les destinées de mon pays.
Nous allons continuer à discuter de ces développements sur le réalisme politique avec Antoine Dresse, qui publie justement un livre intitulé Le réalisme politique, principes et présupposés aux éditions de la Nouvelle Librairie, après la première pause musicale proposée par Claudia.
Consideri proprio virus sapienti, sopra petra polvere siete fondamenti, punto seco con parol, dubbio lamenti, su peone tramite non permanenti. Thank you. quam salutis mortus in anima puerancero odis.
Et vous êtes de retour dans le libre journal des débats de Radio Courtoisie. Charles Demeyer a le plaisir et l'honneur de recevoir Antoine Dresse qui publie Le réalisme politique, principes et présupposés aux éditions de la Nouvelle Librairie. Évidemment, Antoine Dresse, une fois qu'on a considéré l'intérêt de la description historique de Machiavel, on pourrait se dire, très sympathique, en quoi fait-il un travail différent de l'historien ? Il pourrait poser un regard objectif ou tendant à l'objectivité, comme l'histoire cherche à montrer, et à partir de là, dresser des constances, ou essayer de dresser des constances sur la nature humaine, mais qui ne prouverait en soi pas grand-chose sur sa démonstration de ce que cela implique sur le réel. Finalement, on pourrait presque placer une dichotomie, une séparation, étanche ou pas, entre ce qu'il tire de l'expérience historique et ce qu'il tire de la compréhension générale du politique.
Il y a évidemment des parallèles qui peuvent être faits entre la démarche de Machiavel et celle de l'historien. À ceci près toutefois que l'historien n'a pas pour but de tirer des règles d'action, alors que c'est clairement le but de Machiavel. Machiavel montre bien que l'homme politique se trouve toujours aux prises avec une situation fondamentalement risquée et changeante, et il doit être capable de poser une action dans ces circonstances. Je vais prendre justement, faisons un lien entre ce que Machiavel tire des anciens. Machiavel a été très influencé par Polybe, par exemple. Polybe et la théorie de l'anacyclose. C'était cette
idée. Là, il faut que vous nous précisiez, Antoine.
Alors, effectivement, l'anacyclose, c'est quelque chose qu'on retrouvait d'ailleurs déjà chez Platon dans la République. C'est cette idée que les régimes politiques se transforment et évoluent selon un cycle, en fait. C'est-à-dire qu'on part du régime le plus parfait, la monarchie éclairée du philosophe qui dégénère, puis on a une aristocratie, puis une oligarchie, puis une démocratie, etc. Et puis ça se termine en tyrannie. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une évolution qui est presque préordonnée des différents régimes politiques, et Polybe l'avait systématisé plus encore en mettant ça en parallèle avec le cosmos, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y avait un parallèle entre le cosmos tel qu'il était compris par les Grecs, les lois de l'univers et les lois de la cité, avec les mêmes évolutions. Machiavel a beaucoup lu Polybe, donc il était conscient de l'évolution de ces régimes politiques, mais il l'a complètement séparé d'un quelconque fatalisme historique. Il n'y a pas de fatalisme historique pour Machiavel. C'est-à-dire que les régimes politiques évoluent, changent, parce que leurs bases sont toujours fragiles et qu'il n'y a aucune institution humaine qui soit éternelle. L'homme politique doit toujours les défendre contre toute forme d'imprévu. Ce qui me permet d'ailleurs de revenir sur une des pseudo-contradictions qu'on pourrait trouver entre Le Prince et le discours sur la première décade de Tite-Live. On a tendance à dire que Le Prince est plus monarchiste alors que le discours est plus républicain. C'est simplement que l'objet de Machiavel est différent dans l'un ou dans l'autre, mais Machiavel est conscient de l'évolution de ces différents régimes. Donc la politique n'a aucune assurance. L'homme politique n'a jamais aucune assurance, et c'est en cela qu'il a besoin du peu de règles qu'il peut tirer de l'histoire pour avoir quelques orientations un peu solides.
Alors justement, cette conclusion du peu de règles, finalement, on peut la résumer. Alors évidemment, vous me direz que c'est plus compliqué que ça, mais c'est ce que j'en ai retenu. Je le cite à partir d'une de vos phrases. Tout le scandale de l'œuvre machiavélienne vient de ce qu'elle expose, le secret au grand jour, l'accord tacite entre les participants et que les participants à la politique, en réalité, ou alors à la conquête du pouvoir ou au pouvoir, vous pouvez préciser, et que tous les moyens sont permis. Et là, finalement, de la description de réalités historiques à cette conclusion, le pas est grand.
Tout à fait, mais En fait, tous les coups sont permis parce que concrètement, celui qui a gagné le combat politique et celui qui a pris le pouvoir a gagné. Il faut accepter cette tautologie. Il n'y a pas d'arbitre au-dessus qui va disqualifier l'un ou l'autre des participants. Je citais cette comparaison de Hans Freier, qui était un commentateur de Machiavel, qui disait, si vous jouez une partie d'échecs avec votre adversaire, vous êtes en train de gagner, et votre adversaire sort un revolver et tire sur une de vos pièces, la reine, il n'a pas gagné, il est disqualifié par son action. Alors que dans la politique, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Celui qui prend le pouvoir et qui arrive à écarter tous ses adversaires a gagné, quels que soient les moyens qu'il a employés. Et c'est ça le scandale de la politique. Et ce n'est pas que Machiavel dise que le mensonge est anodin. Il dit simplement que c'est une pratique qui est courante dans le monde politique et qui est utilisée pour parvenir à certaines fins. Il ne veut pas dire que toutes les fins sont également acceptables. Ça, c'est un autre débat. Mais simplement, Machiavel évalue toutes ces situations en disant, voilà, si vous voulez cette fin, il faut consentir à ce moyen particulier. Et Machiavel avait beaucoup d'exemples tout à fait frauduleux à son époque, évidemment, en Italie. Lui-même le reconnaît dans certains de ses textes. Il compare avec la situation de la France, qui avait une monarchie beaucoup mieux établie. Et Machiavel reconnaissait que la plupart des pratiques qui avaient cours en Italie ne seraient pas nécessaires en France pour établir le pouvoir du prince, parce que le pouvoir était déjà plus solidement établi. Mais en Italie, Machiavel voit bien que quand César Borgia emploie des manœuvres absolument répréhensibles par la morale, ben il arrive à conquérir la Romagne. Il arrive à asseoir sa domination. Et c'est ça que Machiavel montre sans aucun état d'âme.
Si bien que, alors on l'a déjà dit, mais je pense que c'est important de le préciser, votre démonstration tend non pas à montrer que Machiavel vise au bien, il vise à la description précise de ce qui anime le politique.
Exactement, exactement. Même s'il y a une double démarche chez Machiavel, comme j'ai dit, il y a un aspect, on pourrait dire presque dire scientifique, même si l'expression est excessive, mais en tout cas de description la plus réaliste possible de la pratique du politique. Et il y a une finalité derrière cette démarche de Machiavel, qui est la libération de son pays. Et c'est en vue de la libération de son pays qu'il s'est mis à faire qu'il s'est mis à écrire cette œuvre.
Faut rappeler, donc vous l'avez dit, hein, que c'est un Florentin dans un état morcelé, avec évidemment des questions, on va le voir d'ailleurs dans l'évolution de cette émission, qui se posent de manière différente.
Tout à fait.
Pro...
Mais je pourrais en profiter peut-être
Allez-y, allez-y, Antoine.
pour donner un petit exemple de ce que je disais plus tôt, quand je disais qu'il y avait donc une distinction à faire, par exemple, entre morale et politique, mais qu'il y avait évidemment des rapports dialectiques qui pouvaient s'appliquer entre les deux. Il est évident que la manière dont une action politique va s'imposer dans un pays va être différente en fonction de l'état moral de ce pays ou de la population. C'est-à-dire que si un homme politique doit gouverner une population extrêmement anarchique, totalement rétive et revêche, eh bien le politique sera peut-être obligé, comme à l'époque de Machiavel, de recourir à des moyens extrêmement brutaux, comme César Borgia, par exemple. Alors que, par exemple, quand Fichte reprendra Machiavel au XVIIIe siècle, il dira, eh bien, la démarche de Machiavel est encore tout à fait pérenne, mais les moyens qu'il décrit pour pacifier une population n'ont plus grand intérêt au XVIIIe siècle parce que toutes nos populations ont accepté le règne de la loi, par exemple. Donc évidemment qu'il y a des rapports dialectiques qui s'instituent entre l'état moral d'un peuple et la politique qui est pratiquée. D'ailleurs, Machiavel lui-même le reconnaissait. Machiavel avait des grosses critiques envers le christianisme, par exemple. Lui avait une nette préférence pour la moralité, pour la morale de la Rome antique et la manière dont les hommes se comportent, si les hommes, en tout cas dans la lecture que faisait Machiavel de la Rome antique, étaient animés par des vertus guerrières, combatives, etc., eh bien les citoyens pouvaient imposer un rapport différent avec leur gouvernant, par exemple. Le rapport d'obéissance serait différent. Donc c'est en cela qu'il y a des rapports dialectiques entre les autres. Pour résumer ça en une formule, Gustave Le Bon dira que l'éducation, c'est l'art de former des hommes et la politique, c'est l'art de les gouverner. On gouverne différemment les hommes selon qu'ils ont été formés à la naissance.
C'est là peut-être où on pourrait trouver une faiblesse dans les conséquences qu'amène la problématique précise que pose Machiavel. Finalement, Il nous informe sur la manière de conquérir le pouvoir, d'aller sur la manière dont on peut trouver, je sais pas si le terme légitimité est celui qui l'utiliserait, mais en tout cas une justification à son gouvernement des hommes, moins que de en quoi, vers quoi, pourquoi est-ce qu'on dirige les hommes? Est-ce que finalement, si le réalisme politique, c'est nous expliquer quelle est la meilleure manière d'arriver à leur tête, la question est intéressante, elle peut faire l'objet d'un bon manuel de stratégie, mais est-ce qu'elle n'est pas limitée?
Tout à fait, elle est limitée. Disons que si on veut regarder uniquement l'aspect positif, en tout cas, ce qu'il y a d'intéressant chez Machiavel et à garder en tête, c'est qu'il va dire que ce n'est pas le rôle de la politique de rendre ses concitoyens plus vertueux. C'est-à-dire qu'il doit les accepter tels qu'ils sont pour mener une action concrète. En revanche, vous avez tout à fait raison. Pierre Manant résumait cela dans une formule assez excellente, je trouve, c'est que Machiavel est le théoricien de l'action politique, mais il n'est pas le théoricien de l'institution. Et pour l'institution, c'est plutôt Thomas Hobbes qui m'a intéressé dans ce livre-ci. C'est-à-dire qu'il suit Machiavel de près et lui va plutôt permettre de penser une institution politique, réelle.
Nous allons entrer dans la discussion de Thomas Hobbes avec Antoine Dresse qui publie Le réalisme politique, principes et présupposés aux éditions de la Nouvelle Librairie. Alors d'abord, à tout seigneur, tout honneur, est-ce que vous pourriez nous resituer Thomas Hobbes?
Alors Thomas Hobbes est un auteur anglais du XVIIe siècle qui s'inscrit lui aussi dans une période de trouble, qui est l'époque qui suit de près les guerres de religion entre catholiques et protestants. D'ailleurs, ça c'est quelque chose qu'il faut quand même mentionner à l'attention des auditeurs. Il est toujours important de relier l'auteur avec le contexte historique dans lequel il s'inscrit, car généralement c'est ce contexte qui permet de mieux comprendre la problématique de ces différents auteurs. Et Thomas Hobbes est l'auteur de plusieurs livres, mais de deux livres particulièrement importants, que sont Le Citoyen et Le Léviathan. Généralement, Le Léviathan est un livre que tout le monde connaît de nom, en tout cas. Il y
On
a
aime
toute une.
beaucoup le citer sans le lire, ouais, c'est très
Oui.
utile.
Exactement. Disons qu'à décharge de beaucoup, Le Léviathan est un livre assez épais et qui peut faire peur à la lecture, même s'il est assez agréable à lire, en vérité.
Alors, deux manières de poser la problématique initiale pour vous. Donc, vous l'avez dit, hein, vous posez la question de l'institution, donc sa capacité à la dépasser via Thomas Hobbes. Vous résumez ainsi la problématique via Hobbes. La question fondamentale de la pensée hobbesienne est en effet celle de l'obéissance. Alors, d'abord, pourquoi est-ce que l'obéissance vous intéresse suite à Machiavel et en quoi est-ce que c'est la question fondamentale chez Hobbes?
Bien, pourquoi cela m'intéresse? Si on peut faire le lien avec Machiavel, effectivement, c'est-à-dire que Machiavel nous parle de ces différents personnages politiques, le plus célèbre étant César Borgia, qui conquiert le pouvoir. Mais au fond, pourquoi les hommes acceptent-ils d'obéir à César Borgia une fois qu'il s'est mis à la place de l'ancien prince? C'est quand même une question assez importante à laquelle il faut répondre. Disons que l'apport de Hobbes a été vraiment de poser cette question avec une insistance inédite. C'est-à-dire que dans la tradition philosophique, on posait la question assez différemment. Enfin, la question n'était pas la même. Si on ouvre les textes d'Aristote sur les politiques, par exemple, Aristote ne pose pas la question de savoir pourquoi il faut obéir. C'est une évidence. On obéit. Mais alors, la question d'Aristote, c'est plutôt de savoir à qui faut-il obéir. Faut-il obéir à une seule personne, comme dans le cas de la monarchie, à un groupe, dans l'aristocratie? Est-ce que c'est le peuple qui doit gouverner? C'est plutôt la personne qui est en charge du commandement qui fait l'objet d'un débat. Mais d'un point de vue théorique, d'un point de vue pratique, évidemment, que la question de l'obéissance est très certainement posée bien avant Hobbes, mais d'un point de vue théorique, c'est Hobbes qui l'a posée avec une telle radicalité. Et pour comprendre le pourquoi de cette nouveauté, il faut le relier avec le contexte de l'époque. Donc, c'est cette époque de guerre de religion extrêmement, extrêmement brutale entre catholiques et protestants, où on a assisté, je pense, à une crise de la légitimité. C'est-à-dire que jusque-là, le pouvoir royal, le pouvoir des princes, se justifiait par la nature ou par Dieu. Omnis potestas ad Deo, comme on disait. Tout le pouvoir vient de Dieu. l'époque de Hobbes, il va falloir justifier le pouvoir différemment. C'est-à-dire que le pouvoir va apparaître de plus en plus nécessaire pour pacifier les relations sociales qui sont complètement brisées et qui, laissées de manière anarchique, conduisent à la guerre de tous contre tous. Ce sera une expression de Hobbes particulièrement importante. Et donc, Hobbes va réfléchir à la finalité du politique, qui va justement être le fait d'imposer une loi pour pacifier ses relations. Et donc, pour pacifier ses relations, il va être contraint de commander.
C'est là qu'il est important de noter que, dès lors, la notion d'obéissance, devient centrale.
Tout à fait. Tout à fait. Et on peut vraiment se poser cette question. Pourquoi obéir? Pourquoi confier ainsi sa vie entre les mains d'un autre homme? Parce que c'est ça, fondamentalement, la question en vérité.
Pourquoi la confie-t-on? Évidemment, on pourrait se dire, on la confie par intérêt situé, on la confie par faiblesse, on la confie par soumission au temps présent, à ses intérêts personnels. Évidemment, Hobbes va trouver une explication un petit peu plus profonde que celle-ci.
Tout à fait. Alors pour expliquer cela, Hobbes se livre à une expérience de pensée en vérité, qui est celle de l'état de nature. Généralement, quand on pense à l'état de nature, on pense à Rousseau qui a écrit le Contrat social, mais c'est un courant de pensée, la pensée contractualiste qui précède Rousseau, et Hobbes a été un des premiers à développer cette idée. Alors je tiens à préciser que pour Hobbes, il ne s'agit pas pour autant d'une vérité historique, il s'agit plutôt d'une vérité géométrique, c'est-à-dire
C'est
c'est une
ça, on n'est
expérience.
pas dans une description machiavélienne, il n'y a pas sa volonté, c'est pas de tirer de Tite-Live et Thucydide de la démonstration de son sujet. Là, c'est une
Tout
expérience,
à fait.
on pourrait dire, purement cérébrale.
C'est ça, c'est une expérience cérébrale. Le propos de Hobbes n'est pas de dire que les hommes ont effectivement vécu en dehors de la société. Au fond, c'est pas la question de Hobbes, tout simplement. C'est-à-dire que, mais il va imaginer un état de nature pré-social, où des hommes donc vivraient de manière complètement séparée, et il va essayer de voir quelles seraient les conséquences d'un tel état. Et pour Hobbes, c'est l'état de nature, c'est-à-dire un état dans lequel les hommes vivraient sans aucune loi, sans aucune autorité pour les réfréner, serait l'état de la guerre de tous contre tous. Tout simplement parce que quand l'homme n'est pas réfréné par aucune loi que ce soit, il estime avoir un jus in omnia, c'est-à-dire un droit sur toute chose. Et c'est simplement la loi du plus fort, en vérité. Laissés à eux-mêmes, les hommes s'entretuent. Et sans la discipline qui les rend propres à la société politique, les hommes, dit Hobbes, sont semblables à des nourrissons capricieux. On a tendance parfois à dire que Hobbes est un pessimiste parce que pour lui, la nature de l'homme est mauvaise. En fait, c'est même pas tellement qu'il emploie un argument moral pour dire que l'homme est mauvais. C'est plutôt, il va comparer cet homme de l'état de nature à un grand enfant. L'enfant, un nourrisson, est un pur égoïste. Il veut que tout lui soit donné dès qu'il en a envie, et il se met à hurler, à frapper sa nourrice pour avoir ce qu'il veut. Alors, comme il est faible, ça ne porte à aucune conséquence, et on n'a pas tendance à dire qu'il est méchant. Mais un homme qui n'aurait pas été discipliné par la société, eh bien, est un grand enfant capricieux, tout simplement. Si on veut avoir une exemplification littéraire de cette idée hobbesienne, il y a le livre de William Golding, Sa Majesté les Mouches, qui met, je ne sais pas si vous connaissez, qui met en scène une quinzaine de jeunes garçons dont l'avion s'est écrasé sur une île déserte, leur accompagnateur et le pilote sont morts et les enfants sont laissés à eux-mêmes sur cette île. Et en fait, très vite, montre Golding dans le roman, bah, le vernis de la société s'effondre et ce sont les instincts les plus violents qui ressurgissent avec des crimes rituels, des chasses à l'homme, évidemment un leader qui surgit dans cette collectivité, etc. Et donc, Hobbes part de cette expérience et de cette idée que, voilà, de la nature fondamentalement brutale des hommes sauvages, de la nécessité, à un moment donné, de la loi. C'est-à-dire que, comme les hommes ont, comme je le disais, un jus in omnia, un droit sur toute chose, tout homme vit dans l'insécurité permanente. Et fondamentalement, il y a une égalité naturelle entre tous les hommes. Égalité non pas au sens où ils seraient tous de la même force ou de la même intelligence, absolument pas, Mais il y a une forme d'égalité qui est l'égalité face à la mort. Chaque homme peut mourir, d'autant plus facilement, il peut mourir d'autant plus facilement dans cet état de nature, et même l'homme le plus fort peut se faire tuer d'une certaine manière par un homme faible, il peut être pris en traître, il peut être empoisonné, et tout ce que vous voulez. Et donc, l'homme dans l'état de nature a peur. Il est craintif, il a peur pour ses possessions, pour ses biens et pour sa propre vie. Et c'est en raison de cette peur qu'il va admettre d'aliéner ses droits naturels sur toute chose en remettant ses droits à une personnalité, que Hobbes s'appellera le Léviathan, en fait, l'autorité forte, qui garantira la sécurité de chacun, en vérité.
Ouais, finalement, on pourrait se dire, Antoine Dresse, que Hobbes vivait dans un temps situé, avec des États encore en construction, et que s'il avait eu la grâce et la bénédiction de vivre au milieu des États-nations contemporains, sa question eût été caduque immédiatement, puisque on trouverait dans l'organisation politique de l'État la réponse à toutes ces questions, et finalement. La simplification de problématiques qui viendraient de sociétés soit arriérées, soit non parvenues à leur complet accomplissement politique.
Disons que la réponse que va donner Hobbes, c'est-à-dire cette justification d'un pouvoir absolutiste, certes, est liée à l'époque dans laquelle il vivait, c'est-à-dire que un pouvoir extrêmement fort lui apparaissait nécessaire parce qu'effectivement il vivait dans une époque extrêmement dangereuse et anarchique. Néanmoins, la question de cette nécessité du commandement et de l'obéissance reste tout à fait valable. Et pour répondre à ce que vous venez de dire, je ne suis pas sûr que nous dépendions moins de l'autorité qu'à l'époque de Hobbes et que nous soyons moins dans un rapport de moindre obéissance envers elle. Si on prend simplement le cas de la pandémie récente et du Covid, il a simplement fallu agiter la sécurité de tous, donc de la protection non avec des mesures de sécurité pour que tout le monde abandonne sa liberté. Prestement, sans la moindre révolte collective.
Nous allons continuer à en discuter avec Antoine Dresse, qui publie Le réalisme politique, principes et présupposés aux éditions de la Nouvelle Librairie, après notre deuxième pause musicale.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Vous êtes de retour dans le libre journal des débats de Radio Courtoisie. Charles de Meyer a le plaisir et l'honneur de recevoir Antoine Dress qui publie Le réalisme politique, principes et présupposés aux éditions de la Nouvelle Librairie. Alors, Antoine, une fois que nous avons posé tout ça et que donc Hobbes va aller au-delà de la question de la conservation du pouvoir et pour arriver à la question de la protection du peuple ou des peuples, en quoi est-ce que cela nous permet d'avoir une compréhension de la mutation de la question telle que vous essayez de la démontrer ?
De la mutation de la question par rapport à Machiavel, vous voulez dire ?
Oui, tout à fait.
Bien, je continuerai donc sur ce que je disais, c'est-à-dire que le pouvoir a donc pour mission première d'assurer la sécurité et la protection intérieure, mais il ne peut remplir ce rôle que s'il est puissant. C'est-à-dire que Hobbes rend de manière évidente le lien entre pouvoir et puissance, et parce que le rôle du politique, c'est d'assurer la protection de son peuple, et il ne peut le faire que s'il est fort. Et c'est ça le cogito ergo sum du pouvoir politique. Protego ergo obligo, c'est-à-dire je protège, donc j'oblige. Et de manière réciproque, nous obéissons en échange de la protection. Et c'est quand le pouvoir n'est plus en mesure d'assurer cette protection que l'obéissance disparaît du même coup. Là où Hobbes, justement, où le pouvoir, Hobbes a montré la manière dont le pouvoir institue quelque chose, elle est à l'origine d'une institution. C'est un peu le paradoxe, c'est-à-dire que c'est la décision souveraine qui met fin au hasard et au désordre. C'est-à-dire qu'il y a un paradoxe, c'est-à-dire que c'est la décision arbitraire de l'autorité qui protège contre l'arbitraire et l'irrationalité des multiples volontés qui s'entrechoquent dans l'état de nature.
Ces multiples volontés, on pourrait se demander si finalement elles ne trouvent pas leur aboutissement dans cette volonté de comprendre un rapport propre à l'obéissance. Finalement, et politique, ce qui correspond à un critère d'obéissance. Mais on pourrait vous dire dès lors, qu'est-ce qui distingue Antoine Dress, la politique, d'un rapport familial, d'un rapport social uniquement lié à un bien particulier? Est-ce qu'il ne faut pas à ce moment-là se demander si le rapport d'obéissance n'a pas une faiblesse en soi, en cela qu'il ne décrit pas particulièrement le réalisme politique, mais des rapports humains classiques?
Le rapport d'obéissance à ce commandement est consubstantiel à toute organisation sociale. C'est tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'il y a un rapport d'obéissance dans des groupes, dans des collectivités à fin ludique, dans des collectivités familiales. Tout ça est tout à fait vrai. Ce rapport de commandement et d'obéissance est politique quand il s'adjoint à quelque chose d'autre, c'est-à-dire au propos que j'ai développé dans le chapitre suivant sur Carl Schmitt, c'est-à-dire qu'il est politique quand il y a un rapport d'hostilité fondamentale ou de possible hostilité fondamentale qui peut conduire à la mort. C'est-à-dire que vous pouvez obéir à votre patron pour un salaire, par exemple, et c'est tout à fait normal dans ce genre de relations sociales. Mais votre patron n'a pas un devoir de protection envers vous face à des menaces portant sur votre vie.
Ça, je vous confirme, Antoine. Je rappelle que vous publiez le livre Le réalisme politique, principes et présupposés aux éditions de la Nouvelle Librairie. Alors, Carl Schmitt, que vous venez d'évoquer, est-ce que vous pouvez d'abord nous resituer qui il est et ce qu'il a produit ?
Carl Schmitt, un Allemand qui est né à toute fin du 19e siècle et qui est mort presque centenaire, hein, qui a traversé tout le 20e siècle ensuite. Un Allemand de Rhénanie, un Allemand un peu particulier car il était catholique rhénan comme il aimait à se présenter, et il était très, très, très influencé surtout par une tradition intellectuelle latine, romaine, plus que germanique, et que des auteurs comme Donoso Cortés, Joseph de Maistre, Machiavel également. Alors, Carl Schmitt, avant même d'être un philosophe, était un juriste, mais il s'est évidemment intéressé à toutes ces questions qui nous intéressent aujourd'hui. Et Il a écrit notamment un livre qui est particulièrement intéressant pour comprendre l'essence du politique ou les critères du politique. Ce livre s'appelle La notion de politique, qui l'a publié en 1932. Je crois qu'il y avait une première édition 2-3 ans auparavant, puis la version remodifiée et publiée définitive est de 1932.
On attribue directement, quand on réfléchit aux politiques avec Carl Schmitt, à l'idée du décisionnisme. Alors, est-ce que vous pourriez d'abord décrire cette idée et en quoi elle intéresse directement notre propos?
Alors, le décisionnisme, je ne lui ai pas consacré un très grand développement dans le livre, même si, évidemment, il pourrait tout à fait en faire l'objet. Le décisionnisme, ben, j'en ai déjà dit un tout petit mot à la fin de notre discussion sur Thomas Hobbes, c'est-à-dire que l'ordre, le droit, ne surgit pas de lui-même par une réflexion abstraite ou par une théorie juridique idéale, comme on pourrait le trouver dans les écrits de John Rawls actuellement, et il est posé, et même plutôt il est imposé par l'autorité supérieure. C'est l'autorité qui pose et qui impose le droit. Thomas Hobbes disait que ce n'était pas la vérité qui faisait la loi, mais c'était l'autorité.
Cette autorité, il a tendance à considérer qu'elle est aujourd'hui niée, absorbée par une modalité libérale qui va finalement arriver à la réfutation du politique. Finalement, pour Schmitt, on n'est pas dans une maladie du rapport de l'obéissance au commandement, on n'est pas dans une maladie excessivement machiavélienne, bien qu'on ait dit évidemment pendant toute la première partie de l'émission ce qu'il y avait de limitatif dans cette définition, c'est que finalement on vivait dans une société ou dans une modalité politique qui excluait le réalisme politique en soi, en finissant par essayer de lui substituer d'autres interprétations du monde et de la vie en société, soit par une absorption morale, soit par une toute-puissance de l'État, qui finissait par mentir aux hommes sur leur propre organisation sociale, finalement.
Oui, en fait, Carl Schmitt se trouve dans une nouvelle configuration intellectuelle où c'est la politique en tant que telle qui est menacée de toutes parts. Disons qu'on voit des théories, on peut le voir chez les libéraux ou chez les marxistes et les socialistes de l'époque, on veut en finir avec le politique. On veut l'absorber dans l'économique, on veut en finir avec le politique parce qu'il est le vecteur de la domination des classes, par exemple, de certaines classes sociales dans le marxisme. Donc il y a une volonté d'en finir avec le politique, de un. Et il y a aussi autre chose que remarque Carl Schmitt, c'est qu'il y a une mécompréhension de ce que signifie le politique. Et cela, il l'attribue au fait que depuis 2-3 siècles au moins, depuis l'ère classique, l'époque où on a élaboré les concepts classiques du politique, il y a une confusion entre politique et étatique. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de cercle vicié entre les deux notions. On définit le politique par l'État et on définit l'État par le concept de politique. Et cela, pour Carl Schmitt, est une indigence intellectuelle, car, dit-il, l'ère de l'État est à son déclin. Alors c'est un peu paradoxal, il faudra peut-être préciser en quel sens il entend qu'il y a un déclin de l'État, mais s'il lui apparaît important de venir clarifier la notion et de délimiter les frontières strictes du politique, c'est parce qu'il voudrait éviter en fait que la pensée politique contemporaine ne reproduise la même erreur que les médiévaux. Il donnait cet exemple, c'est-à-dire que Aristote, par exemple, avait élaboré toutes sortes de concepts politiques qui s'appliquaient à la cité-État des Grecs. Tous ces concepts ont été hérités ensuite par les médiévaux, par les théologiens et les philosophes du Moyen-Âge, qui en fait se sont retrouvés avec des concepts qui ne s'appliquaient absolument pas à leur propre problématique ou à leur réalité politique. La cité-État, au Moyen-Âge, ça ne voulait plus rien dire. Et au contraire, la problématique essentielle des médiévaux, c'était plutôt les rapports entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, toutes sortes de choses qui échappaient complètement à Aristote et qui n'avaient jamais été élaborées par lui. Donc, Carl Schmitt voudrait qu'on évite ce même inconvénient dans l'époque moderne, et c'est pour ça qu'il va tenter de définir le politique en tant que tel sans en passer par l'État. Et c'est pour ça que le texte de Carl Schmitt, La notion de politique, commence par cette phrase. La notion d'État, l'État présuppose la notion de politique. En fait, c'est uniquement par la politique qu'on peut définir l'État et pas l'inverse.
Oui, c'est là où ça demande à être prolongé, puisque on pourrait y voir une forme de paradoxe finalement. Si aujourd'hui l'État, mal perçu, imperçu, de manière irréaliste, etc., résume à lui seul pour la majorité des contemporains ce qu'est le politique, Carl Schmitt peut bien vouloir dire ce qui devrait être, ce qui pourrait être, ce qui pourrait advenir, etc. Mais la réalité de ses contemporains est tout autre chose.
En fait, disons que à l'époque, donc à l'époque du XVIIe, XVIIIe siècle, on a élaboré tous ces concepts. Il y avait une bonne raison d'amalgamer politique et État, c'est-à-dire que l'État était vraiment avait réussi à pacifier l'intérieur, enfin avait réussi à pacifier chacun des pays de l'Europe, et l'État ne s'occupait uniquement que des rapports de police à l'intérieur ou les rapports diplomatiques et militaires à l'extérieur. Et là où Carl Schmitt dénonce une forme de... Enfin, c'est pas qu'il le dénonce, il constate un déclin de l'État, c'est-à-dire que l'État n'est plus uniquement centré sur sept domaines régaliens et ce qui touchait la question strictement politique, mais il devient un État total. Donc c'est un déclin paradoxal, en fait. C'est un déclin en sens où l'État devient de plus en plus obèse. Et donc il se dissout dans tous les domaines et tous les champs de la société. Et c'est en ce sens précis qu'il parle de déclin de l'État. Et ce faisant, le politique n'est plus uniquement détenu par l'État. Autrefois, c'était l'État comme instance qui pouvait déterminer quels étaient les rapports strictement politiques. Aujourd'hui, non. C'est la société tout entière qui se politise. Et la politique, va montrer Carl Schmitt, se définit autour d'un rapport d'hostilité. D'hostilité, c'est quand l'hostilité atteint un niveau de plus en plus grand, on peut dire qu'un antagonisme devient politique. Et je pense qu'on peut le constater aujourd'hui même, tout est devenu politique. Les films sont devenus politiques, les rapports entre amis, dans le couple, tout ce genre de choses sont devenus politiques.
Ah, évidemment, c'est une absorption terrible. Avant de discuter de cette absorption, il y a en même temps l'idée chez Carl Schmitt que le politique n'a pas forcément besoin d'État, ce qui pour nous est assez... assez déstabilisant, puisqu'on a beaucoup de mal à imaginer une tentative d'organisation de la vie sociale, finalement de la politique, sans forme étatique, qui semble tout de même, de manière assez rationnelle, et même si on tire des leçons de l'histoire et des... Bon, progrès serait pas le bon mot, mais des dynamiques historiques différentes, de civilisations différentes, semble quand même converger vers la création d'un État de manière assez... sinon universelle, du moins massivement convergente.
Tout à fait, et d'ailleurs, Carl Schmitt le déplore, hein, plutôt le fait qu'on puisse se passer d'État, parce qu'il est un très grand admirateur de l'État classique européen, mais disons que pour lui, l'État, effectivement, n'est que la manière moderne d'envisager et d'organiser la vie politique. Sans ce sens que Julien Freund, encore lui, faisait une distinction entre l'État comme instance et la politique comme substance, c'est-à-dire que la politique est cette essence qui traverse toute organisation humaine, quelles que soient les époques, et l'État est la manière moderne de l'organiser. Mais en fait, cette organisation et ces rapports antagonistiques peuvent totalement être organisés d'une autre manière.
Vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie, Charles Demeyer a le plaisir et l'honneur de recevoir Antoine Dresse qui publie Le réalisme politique, principes et présupposés aux éditions de Nouvelle Librairie. Antoine, il nous reste une dizaine de minutes. Vous avez évidemment abordé Julian Freud dès le début de l'émission, puis là on en arrive à lui, sur la question de l'hostilité. Alors en quoi est-ce que cette notion d'ami-ennemi nous aide à penser cette problématique?
Parce que... comment dire, j'avais au début de notre entretien, j'avais énoncé toutes sortes de présupposés des différentes activités de la vie humaine, c'est-à-dire que la science s'organise autour des notions de vrai et de faux, l'éthique autour des notions de bien et de mal, l'économique autour des notions de rentable ou de nuisible, par exemple. Et donc, la question de Carl Schmitt, c'est de savoir s'il y a des critères de ce même ordre pour la politique qui ne sont réductibles à aucun autre. Et puisqu'il nous reste assez peu de temps, allons, mettons directement les pieds dans le plat. Ce que Carl Schmitt va déterminer pour le politique, c'est le rapport ami-ennemi. C'est-à-dire que c'est une distinction qui est irréductible également. Et on peut très bien... car l'ennemi politique n'est pas forcément un homme mauvais moralement. On peut également faire des affaires économiques avec un ennemi, mais le rapport d'hostilité, c'est-à-dire la dialectique ami-ennemi, est quelque chose qui est vraiment spécifique aux politiques. S'il n'y avait pas d'ennemis, il n'y aurait pas d'organisation politique. Et là, on en revient à Hobbes également.
Ainsi, écrivez-vous, toute unité politique véritable doit admettre comme présupposé la possibilité du conflit et donc l'existence d'autres intérêts.
Tout à fait. Et ce rapport d'hostilité doit vraiment être pris dans son acception la plus littérale. C'est-à-dire que ce n'est pas la compétition comme on peut trouver dans un rapport économique. L'hostilité au sens politique, c'est la possibilité que cette hostilité atteigne un degré maximum et conduise à la mort et à la destruction d'une nation, d'une entité politique quelconque. Et c'est en ce sens que le politique a ce devoir de protection.
Ce qui est intéressant, c'est que dès lors, la finalité n'est plus la préservation simple... Enfin, pardon. Dès lors, la finalité de la politique, ou du politique, n'est plus simplement l'harmonie des composantes de la vie sociale, mais plus fondamentalement la protection face aux ennemis de la vie sociale. Et est-ce que dès lors, c'est pas, j'allais dire, comme si la conséquence c'est plus l'harmonie, c'est la protection face aux ennemis, ça engendre comme par retour une définition plus particulière de la vie sociale. Si dès lors elle doit être particulièrement protégée, c'est qu'elle a, comme en elle-même, comme par essence, une faiblesse, un handicap presque.
Oui, bah c'est que l'existence des hommes entre eux n'est pas assurée et qu'elle est fondamentalement risquée. Les rapports humains peuvent très vite s'envenimer. Et donc, une des finalités du politique est de pacifier ces rapports, à l'intérieur comme à l'extérieur. La nécessité aussi de garder cette distinction à l'esprit, c'est qu'elle permet d'éviter certains rêves utopiques. C'est-à-dire qu'on peut évidemment, pour des raisons morales ou des raisons religieuses, pourquoi pas espérer, par exemple, l'unification de la planète, la fraternité de tous les hommes entre eux, pourquoi pas. Mais politiquement, ça n'a pas de sens. Politiquement, montre Schmitt, il y a toujours la possibilité d'un conflit, et donc on ne peut pas déclarer la paix à l'univers tout entier. Si vous déclarez la paix à
l'univers tout entier... Vous n'êtes pas pour le projet de paix universelle, finalement, Antoine Dresse.
Ben, disons que d'un point de vue politique, ça n'a pas de sens. C'est ça que Carl Schmitt veut montrer. Peut-être que moralement, c'est quelque chose de souhaitable. Hein. Je ne me prononcerai pas là-dessus. Mais politiquement, si le politique s'impose ce genre de finalité, il ne peut que conduire à l'inverse du but recherché.
Au-delà de la provocation gratuite, est-ce que ça ne nous pose pas une question sur la définition même que nous donnons de la nature humaine ? C'est-à-dire, comment tenir l'idée que la nature humaine et que l'homme soit un animal sociable, alors même qu'il y a en lui-même et dans cette capacité de sociabilité, la notion, enfin une telle notion, une telle accentuation de la notion d'adversité ?
C'est vrai, c'est une bonne question.
Et c'est pour je vous remercie que... Antoine, je vous remercie, j'essaye d'y travailler.
Mais c'est pour ça typiquement qu'un philosophe comme Hegel, par exemple, s'est retourné davantage vers Machiavel que vers Aristote. Non pas qu'Aristote n'était pas intéressant, mais parce qu'Aristote, en partant immédiatement de ce postulat qui est la nature sociale des hommes, ne permettait peut-être pas immédiatement de voir... l'aspect fondamentalement dangereux de la vie des hommes entre eux. C'est-à-dire que les hommes vivent entre eux, oui, de manière naturelle, parce qu'on a besoin de vivre ensemble pour nous développer nous-mêmes. C'est-à-dire que notre vie sociale est nécessaire, mais il y a toujours un risque qui gît derrière cette organisation sociale. Et c'est un des présupposés, en fait, de l'homme politique. C'est-à-dire que Machiavel dira que l'homme politique doit toujours partir du présupposé que les hommes feront le mal dès qu'ils n'y sont pas contraints. Alors, il ne faut pas non plus le comprendre d'un point de vue dogmatique. C'est pas comme si c'était le dogme du péché originel, par exemple, où Machiavel dirait que fondamentalement, l'âme de l'homme est noire et qu'elle est toujours noire. C'est que d'un point de vue politique, l'homme politique doit partir de ce présupposé. Car évidemment, il y a aussi des hommes bons, des hommes qui ne vont pas vous poignarder dans le dos dès que vous serez retourné. Mais l'homme politique doit partir de ce présupposé pour être capable de protéger au mieux ses concitoyens. Et c'est un présupposé méthodologique. De même que, par exemple, à l'inverse, un pédagogue, un professeur, doit partir du présupposé que tout homme est capable d'apprendre et de s'améliorer. Sinon, il n'enseignerait rien à ses étudiants. Donc, c'est en ce sens, d'ailleurs, que j'ai mis ce sous-titre de présupposé dans mon livre. C'est-à-dire que le but était de chercher quels sont les présupposés à toute pensée politique authentique et cohérente.
Si bien Antoine que s'il doit faire attention à cette hostilité latente ou potentiellement latente dans son organisation sociale, le politique est face à deux solutions. La menace de la coercition ou la volonté d'intégrer aux hommes par eux-mêmes, par diffusion, par lignage, par échange, des normes possédées en commun. Est-ce que vous ne venez pas de rétablir la morale sans le vouloir ?
Non, je ne dirais pas. Mais disons que le fait d'insister sur ces rapports de commandement d'obéissance, ces rapports d'hostilité, ne sont pas en soi une réponse à nos problèmes. C'est le cadre et la délimitation dans laquelle on peut donner une réponse. C'est-à-dire que quand on lit Hobbes, on n'est pas obligé d'aboutir à la même conclusion que lui, qu'il faut absolument un état Léviathan qui soit aussi puissant que Hobbes le souhaitait, mais il nous invite à penser ce rapport de commandement d'obéissance pour trouver la meilleure dialectique entre les deux. C'est-à-dire quel est le meilleur équilibre en fonction, il est vrai, de la morale, par exemple, de la morale du pays dans lequel nous vivons.
Évidemment, aujourd'hui, nous vivons dans une économie politique où la volonté d'une humanité totalement universelle, alors à la fois dans sa nature qui est niée, puisque finalement l'indistinction est une forme d'universalité en soi également, et puis une nécessité de considérer que comme l'homme n'a plus d'attributs singuliers, le gouvernement mondial est possible, puisque finalement toutes les règles sont légitimes. En quoi, pour les auditeurs qui n'auraient pas compris qu'il y avait de possibles conséquences politiques à la réflexion que nous venons de mener, sans tirer des conclusions, puisqu'on a bien compris que ce n'était pas l'idée, Antoine, à la fin de cette réflexion, quel grand questionnement politique un auditeur devrait se poser au regard de la discussion que nous venons de mener ?
Oh, il y en aurait beaucoup. je dirais qu'une des choses sur lesquelles je voudrais insister le plus, peut-être, pour terminer cet entretien, pour attirer l'attention des auditeurs là-dessus, c'est-à-dire que cette démarche du réalisme politique a pour ambition de réinstaurer la primauté du politique dans le domaine du politique. C'est-à-dire que dans ce qui concerne le domaine du politique, ce sont les questions spécifiquement politiques qui doivent primer, et non pas des considérations morales, moralisantes, telles que vous venez de les énoncer sur la paix universelle, sur le gouvernement mondial ou ce genre de choses. Néanmoins, il ne faut pas faire un abus de cette notion de primauté du politique. La primauté du politique, telle que je la décris dans le livre, c'est la primauté du politique dans les affaires strictement politiques, mais ça ne veut pas dire que c'est la politique qui est la plus importante, qui est l'activité la plus importante dans la vie humaine. C'est-à-dire qu'il y a aussi l'esthétique, il y a aussi la morale, il y a aussi la religion, et la politique n'est pas forcément plus importante que ces autres activités. Et c'est pour ça que je m'étais permis de citer la formule de Maurras à la fin de ce livre, « Politique d'abord ». Ce n'est pas politique d'abord au sens où la politique est la plus importante en dignité, mais c'est-à-dire que si on veut garantir, si on veut permettre à des gens de composer la 9e symphonie ou de mener une vie bonne et une vie morale dans un pays, il faut d'abord assurer la sécurité de ce pays. Et c'est en ce sens que la politique est première dans l'ordre des moyens.
Ce qui nous amènerait évidemment à considérer la question de l'égalité ou pas des serviteurs de la politique avec les autres hommes. J'espère que vos brillants éditeurs arriveront à vous motiver pour poursuivre la réflexion, parce que si votre livre n'est pas d'une modernité totale chez nos commentateurs, la question des conséquences sur les serviteurs de la politique dans cette question l'est encore moins. Antoine, à la fin de ce parcours sur le réalisme politique, principes et présupposés, je le rappelle, aux éditions de la Nouvelle Librairie, est-ce que vous avez l'impression, c'est une question purement subjective, est-ce que vous avez l'impression que ces questions sont sous-jacentes à un certain nombre de débats contemporains, ou est-ce que vous avez fait là œuvre d'érudition philosophique, de pure réflexion, artificielle presque? Ou est-ce que vous considérez qu'il y a là matière à conséquences et à réflexions immédiates sur notre contemporanéité?
Non, j'ose espérer qu'il y a quelques rapports avec notre monde contemporain, avec la manière dont on appréhende la politique. Le fait de mener une réflexion sur le réalisme politique et de... Voilà, j'invite les gens à devenir plus réalistes sur cette question, je dirais, pour éviter au moins deux écueils. Le premier, c'est cette moralisation de la politique qui consiste à paralyser la politique en raison de toutes sortes d'idéaux humanitaristes, par exemple, qu'on peut très souvent voir à l'œuvre actuellement. Mais l'autre écueil, et c'est en cela que ça peut être peut-être plus intéressant pour nos auditeurs, c'est que si la politique peut être paralysée et parasitée par la morale, la politique peut aussi s'emparer de la morale, parfois pour faire œuvre de rapacité, pour faire œuvre de manipulation, etc. Et c'est à cet égard aussi que faire la distinction entre politique et morale peut aider à ne pas se faire manipuler.
Ça amène évidemment même à des conclusions théologiques, mais c'est un autre débat. Dernière question rapidement, Antoine Dress. Aujourd'hui, est-ce que vous voyez un exemple saisissant de ce que vous venez de dire, c'est-à-dire d'erreur complète de compréhension de nos contemporains du fait politique qui pourrait être éclairé par la réflexion, je vais dire, plus générale ou du moins plus conceptualisée que nous venons d'avoir?
Ah oui, tout à fait. Les exemples abondent de ce genre d'erreur. Si on prend par exemple toute cette dimension schmittienne sur l'ami et l'ennemi, eh bien on voit que les Européens ont été trop longtemps habitués à vivre dans une espèce d'utopie kantienne ou habermasienne qui consiste à croire en la paix universelle et donc à croire que l'ennemi était un vieux souvenir, qu'il n'y avait pas d'ennemi. Et quelle que soit l'opinion qu'on porte sur ce conflit d'ailleurs, le récent conflit, enfin le conflit actuel qu'il y a entre la Russie et l'Ukraine montre bien que la guerre ne disparaît jamais de l'horizon du politique.
Un immense merci de nous avoir accompagnés au cours de cette émission. Antoine Drey, je rappelle le titre de votre ouvrage, Le réalisme politique, principes et présupposés, aux éditions de la Nouvelle Librairie.
Merci à vous.
Quant à moi, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Je remercie Claudia qui nous a accompagnés pendant l'intégralité de cette émission. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Libre Journal des Débats.
Vous venez d'entendre le Libre Journal des Débats dirigé par Charles de Meyer, émission préenregistrée le 21 février 2024 et diffusée pour la première fois mercredi 13 mars 2024 de 21h30 à 23h et réalisée par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.